Il y a eu malheureusement un séisme meurtrier, encore une fois, hier, que vous avez entendu parler. Et je voulais simplement montrer, avec les outils que nous avons déjà regardés ou appris dans ce cours, quelques éléments concernant ce séisme. Alors d'abord, donc, il a eu lieu à la frontière de l'Iran et de l'Irak. Et nous avons déjà un mécanisme à la source, donc merci bien, et une fonction temporelle à la source pour ce séisme qui était d'une magnitude NW 7.4. Alors ce mécanisme est un mécanisme que vous reconnaîtrez en compression, ce genre de symbole indique une compression dans une direction nord-est-sud-ouest. Et en fait, l'une des solutions pour les plans de faille, donc il y en a un ici et l'autre ici, correspond bien à l'environnement tectonique de cette région, qui lui-même correspond à ce que la plaque arabe d'Arabie, qui est actuellement en rotation du sud vers le nord, due à l'ouverture ici de la mer Rouge, elle est en train de s'enfoncer dans la plaque Eurasie le long de cette zone de convergence qui est marquée par la chaîne de montagnes des Zagros. Donc le séisme a eu lieu ici, donc il y a cette rotation avec une vitesse de convergence donc un peu en oblique, ce qui explique en particulier que ce n'est pas un séisme en faille inverse pure, il y a un peu de décrochement qui manifeste cette convergence oblique. Voilà, donc ça c'est pour une autre chose qu'on peut regarder. C'est le sixième événement de magnitude 7 en 2017, alors qu'on s'attend, et dont un supérieur à 8, celui de Mexico, pas celui dont nous avons parlé, mais celui du 8 septembre, qui était plus gros, plus au sud du Mexique. Entre les magnitudes 7 et 8, on a eu 5 événements jusqu'à présent, alors qu'en moyenne, on a une douzaine, 12 à 15 événements de magnitude 7, entre 7 et 8 par an. Donc, j'ai mis ici déficit en point d'interrogation. On peut peut-être s'attendre à d'autres événements. L'autre de cette magnitude, encore d'ici la fin de l'année. L'autre remarque assez intéressante, c'est que parmi ces événements, il y en a deux qui sont des événements profonds. Un très profond aux Philippines, une profondeur de 627 km, et l'autre de profondeur intermédiaire à 135 km de profondeur. Ce qui est aussi assez rare, enfin pas très courant, disons, d'avoir des séismes de cette magnitude à grande profondeur. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si, oui, la durée de la source, c'est une source assez compacte, une durée d'une quinzaine de secondes, alors que pour un magnitude, en moyenne, pour un magnitude de ce type-là, si on prend les lois d'échelle dont je vous ai parlé, on s'attend plutôt à des durées de source de l'ordre de 25 secondes. Donc une source très compacte, un dégagement d'énergie en un très, très court temps, qui est peut-être symptomatique de cette zone de convergence continentale. Alors revenons au séisme de Sumatra. Donc je vais résumer un peu ce que j'ai raconté il y a 15 jours. Donc ici, encore une fois, nous voyons la zone de rupture de ce séisme illuminée par la localisation des répliques. Donc, il s'agit d'une zone qui a affecté environ 1300 km de cette limite de plaque, aussi en convergence un peu oblique, avec un hypocentre au sud et une propagation vers le nord, dont je vous ai montré les manifestations de directivité très, très fortes qu'on voit à l'œil nu dans les données. Donc, zone de rupture de 1300 km, des glissements de l'ordre de 15 à 20 mètres. Alors, rappelez-vous ce chiffre quand on parlera du séisme du Japon. Ces valeurs sont encore plus fortes dans ce cas-là. une durée de la rupture très longue, de l'ordre de 600 secondes, une vitesse moyenne de 2,4, de propagation de la rupture elle-même, de l'ordre de 2,4 km par seconde. Et nous avions vu, à la fin du dernier cours, qu'en fait, on pouvait diviser cette rupture en trois zones, suivant la propagation vers le nord, avec donc un épicentre ici, puisqu'on a projeté sur le plan de surface, mais donc un hypocentre à vers 30 km de profondeur, situé à la base de cette zone de rupture. D'abord, remontée de la rupture assez lente vers la surface. Ensuite, pendant les premières 50 secondes, il ne se passe pas grand-chose, faible radiation sismique. Ensuite, un glissement important et rapide pendant presque 200 secondes, avec des sons, justement, le glissement de l'ordre de 20 mètres, en moyenne 7 mètres, sur une faille de pendage très faible, par rapport à l'horizontale, 8 à 14 degrés. Ensuite, un autre segment où le glissement a ralenti, avec aussi un déplacement plus faible et une faille de pendage un peu plus importante. Et enfin, une dernière partie de cette rupture qui est relativement plutôt lente, avec peu de glissement, et qui se termine par en plus de ce glissement moyen de 2 mètres, de 5 mètres de glissement qui s'est produit lentement entre 600 et 3500 secondes à partir du temps origine. Ceci est corroboré par la solution de tenseur des moments, centroïde de tenseur des moments, qui reflète bien les vitesses de rupture variables ici, et le changement d'orientation de la faille. Ici, en fait, ce n'est pas les vitesses de rupture qu'on marque, elles sont variables, mais ce n'est pas ça qu'on voit ici. Ici, on voit la contribution au moment sismique, qui est plus importante dans le sud qu'elle n'est dans le nord, et aussi la rotation au cours de cette faille. Alors, la dernière chose dont je voulais parler à ce propos, c'est la question qu'on s'est posée pour savoir où était la source du tsunami. La source, on peut distinguer la source des vibrations sismiques et la source du tsunami, qui n'est pas l'énergie manifestée par le tsunami, n'est pas forcément centrée au même endroit. Et justement, une question s'était posée, est-ce que cette source provient du sud ou de la partie nord, là, des îles Andaman, du nord de la rupture. Ce n'était pas très clair au début, juste après le séisme. Alors, des études ont été faites plus tard, ici, vous voyez, 2007, donc deux ans après le séisme, où on a pu utiliser les données de marégraphes qui sont indiquées ici par les triangles noirs. Il y a des triangles blancs aussi, c'est des données qui n'ont pas été utilisées, mais il y a aussi des marégraphes à ces endroits. 12 marégraphes autour de la source, et seulement les noirs ont été utilisés dans l'inversion, et on y a associé des données du satellite, plusieurs satellites. Il se trouve qu'il y avait trois satellites qui mesurent la satellite altimétrique qui mesure la hauteur de la surface de la mer, qui sont passés par là juste après le séisme et donc qui ont produit des données importantes. D'abord le satellite Jason qui est passé à presque 2 heures après le temps origine et a capté les signaux de tsunami dans cette région pendant 11 minutes. En passant du sud au nord. Ensuite, Topex Poseidon, qui est passé un peu plus tard, après le temps origine, aussi dans la même direction, sud au nord. Et enfin, Envisat, qui est passé plus tard, on verra, les données sont moins claires, après le temps origine, et lui se dirigeait dans la direction opposée. Et donc, ces auteurs ont rajouté à ces deux types de données, donc des données de marégraphes et de satellitaires, une bathymétrie réaliste qui a la bathymétrie, la hauteur du fond marin influe sur les vitesses de propagation et les directions de propagation du tsunami. Alors, je montre ici les données des marégraphes. Donc, vous avez ici plusieurs stations. Notez que les chiffres ici, donc ça c'est en fonction du temps. Le temps origine c'est 0, donc certaines commencent à 0, certaines sont indiquées ici à déjà 120 minutes après le temps origine, hein, donc 2 heures après le temps origine. Le tsunami se propage lentement, mais c'est un peu déconcertant quand on regarde ça la première fois pour comprendre ce qu'on voit. Donc c'est pas la même. Disons la même référence de temps dans toutes les stations. Alors on voit que les premières arrivées, notées en rouge, sont donc 120 minutes, à peu près 120 minutes après l'initiation de la rupture, ici dans ces deux stations-là, donc les plus proches de la rupture sismique, à peu près arrivées en même temps. Et ensuite, les îles Cocos arrivent 140 minutes après. Ici, vous voyez, 640 minutes, le signal arrive. Puis, sur la côte est de l'Inde, donc à peu près en même temps, mais avec quelques petites différences qui ont fait qu'au début, on n'était pas très sûr de l'origine de ce... D'où venaient ces ondes exactement? Parce que si on fait la rétroprojection en tenant compte des temps d'arrivée, suivant qu'on est au sud ou au nord, on voit une source à différents endroits de cette rupture énorme de 1300 km. Alors les données satellitaires ont apporté quelques éléments. Donc, je les montre ici. C'est encore une fois. Alors c'est. On voit ici, en fonction de la position du satellite, donc aussi du temps, on a les observations qui correspondent au passage du satellite après le séisme, qui sont en gris, on ne voit pas très bien. On les compare aux observations durant le passage précédent. On fait aussi beaucoup de corrections pour enlever les effets des marées et autres effets de ce type. Et on va prendre la différence entre les observations durant le cycle précédent et le séisme, et c'est ce qui est montré donc par des carrés. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont ces grands signaux ici. On voit un pic dans Topex Poseidon, on en voit deux dans Jason, et en Vissat, par contre, c'est presque déjà noyé dans le bruit. Alors, l'utilisation de toutes ces données conjointes a permis une inversion, donc de même manière qu'on fait l'inversion des données sismiques. Et donc pour cette inversion, on a paramétrisé cette faille ici en 22 éléments. Et on a pris quelques informations à partir des résultats sismiques, donc en particulier la direction du glissement, le pendage de la faille d'après la zone de réplique, la direction du glissement d'après la solution du tenseur des moments. Et donc aussi, on a supposé une rupture qui commence à l'épicentre et qui se propage vers le nord. Et on a essayé diverses vitesses de rupture. Et là, il y a quelques incohérences, c'est-à-dire les données satellitaires préfèrent une rupture qui se propage lentement, 1 km par seconde. Par contre, les marégraphes préfèrent 2,5 km par seconde, mais ils n'arrivent pas à résoudre cette différence. Enfin, l'important, c'est qu'ils ont pu montrer que la source du tsunami atteint, donc couvre trois quarts en fait, de la zone de rupture jusqu'à 900 km au nord de l'épicentre. Et ici, on voit simplement un peu plus le glissement obtenu donc à partir de l'inversion des données de marégraphes et satellitaires qui sont donc dans cette zone, dans la même zone où, suivant les vitesses de rupture, on a des solutions un peu différentes, mais qui sont toutes dans cette zone concentrées sur la zone sud, avec quand même, on ne voit peut-être pas très bien ici sur la diapo, du glissement important dans cette zone centrale. Et par contre, toute la partie nord n'a pas l'air d'avoir eu de rôle à jouer dans l'excitation du tsunami. Et donc, on en a déduit qu'il y a eu un glissement lent donc, dans cette région-là, mais un glissement lent qui s'est produit assez rapidement tout de même après le séisme, puisque puisqu'il a dû se produire après le passage du tsunami, mais avant les mesures de terrain qui ont été faites donc, suite à ce séisme, et qui ont montré l'évidence de subsidence dans cette région partie nord de la rupture. Alors, parlons un petit peu, je vais introduire un peu ces notions de glissement lent. On observe maintenant de manière plus ou moins routinière, après les très forts séismes, une relaxation post-sismique qui donc correspond à un glissement qu'on ne ressent pas du point de vue sismique, pas dans la bande de fréquence sismique, qui donc correspond à des déformations plus lentes, mais qui sont très bien observées dans les données de GPS en particulier, principalement. Ici, donc, on voit les séries temporelles donc journalières pendant 15 jours après le séisme. Ici, c'est le temps origine du séisme. Et on observe, il y a bien sûr un décrochement au moment du séisme, un déplacement important qui n'est pas indiqué sur cette figure. Et ensuite, on regarde comment ces déplacements de ces divers stations GPS évoluent au cours du temps. Et on voit ici une assez importante évolution, surtout dans certaines stations de cette région. Ici, on voit ces Phoquettes. Et dans les stations Arau, on voit des déplacements importants qui vont jusqu'à 4 cm pendant ces 15 jours qui suivent le séisme. Alors, ce qu'on en a déduit, c'est la présence de relaxation post-sismique. La forme de cette courbe est importante parce qu'elle permet de distinguer la nature de cette relaxation post-sismique. Ce ne sont pas les répliques du séisme qui sont des tremblements de terre qui sont la cause de ces observations. Si c'était les répliques, on aurait une dépendance en temps, en puissance du temps. C'est une loi empirique qu'on observe depuis très longtemps après les forts séismes, que le comportement des répliques est en fonction du temps, suit une loi de puissance, ou inversement, à la puissance P du temps. Or ici, cette courbe est une courbe logarithmique qui correspond mieux avec un écoulement viscoélastique pour rattraper, disons, les déformations dans cette région. Alors nous reparlerons de ce genre d'observation pour d'autres séismes, en particulier pour celui de Tohoku. Donc il a été attribué, celui-ci, au réajustement, au glissement asismique, donc sans engendrer d'ondes sismiques, dans les couches sédimentaires qui ne sont pas tout à fait consolidées au-dessus de la faille. Alors, d'autres observations après qui confortent aussi la relaxation viscoélastique après ce séisme, ce sont les données de gravimétrique. Alors ici, donc, le géoïde, c'est mesure, la hauteur du géoïde, c'est une façon de mesurer le champ de gravité de la Terre et ses variations latérales. Et ici, on compare le géoïde observé, ou plutôt les anomalies du géoïde par rapport à un modèle de référence qui est un modèle d'ellipsoïde de révolution de la Terre. On observe ces anomalies du géoïde avant le séisme de 2004, qui a eu lieu à la fin de l'année 2004, donc pendant les deux années précédant le séisme. On compare avec le champ observé, le géoïde observé ou les anomalies de géoïde observées après les séismes. Alors pourquoi les séismes? Parce qu'il y a en fait trois séismes qui interviennent, le séisme principal de Sumatra 2004 et un gros séisme au sud en 2005, donc le séisme qu'on appelle le séisme de Nias. Et en 2007, il y a eu aussi un séisme de magnitude 8.4, encore un peu plus au sud. Et donc, on voit ici une anomalie avec une augmentation de la gravité, donc quelque part, soit un rapprochement de la surface, soit une augmentation de la densité. Et en arrière, ici, dans le bassin arrière, on voit une diminution de ce géoïde qui, encore une fois, colle bien avec l'idée de cette relaxation viscoélastique post-sismique. Plus récemment, ceci a été étudié en prenant 10 années de données GPS et en regardant l'évolution des déplacements dans toutes ces stations. Alors, les données ici sont en noir avec les barres d'erreur. On a les trois composantes, nord, est et vertical. Donc, c'est les déplacements en mètres. Donc, on est ici, c'est 5 cm, plus ou moins 5 cm, qui sont bien résolus dans ces données. Et ces auteurs ont développé des modèles viscoélastiques pour essayer d'expliquer ces tendances. Dans ces tendances, on a déjà enlevé la référence qui est la convergence des plaques moyennes dans cette région, d'après des modèles globaux. Et donc, il ne reste que des effets supplémentaires qu'on associe à la relaxation post-sismique. Alors, c'est simplement pour donner un exemple. Donc ici, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui collent mieux, il y en a qui collent moins bien. Ici, en mauve, celui qui est préféré par ces auteurs, qui colle le mieux dans ces stations, certainement dans cette station-là, et dans un peu moindre mesure dans cette station-là. Et donc, celle-là est ici, LWK. CARI est, je crois, ici. Et il me semble, oui, ça doit être celle-là. Et dans les autres stations sont moins sensibles ici, mais par contre, BAN 2, qui est elle dans le sud de l'Inde, permet aussi de différencier ces différents modèles. Et pourtant, elle est assez loin. Alors, simplement pour vous donner une idée du genre de modèle qui se fait, c'est un modèle viscoélastique en éléments finis, dans lequel les auteurs ont montré que pour vraiment mieux expliquer les données, ils sont obligés d'introduire une zone justement visqueuse en arrière de la zone de subduction. Alors ici, c'est simplement, on montre en coupe, donc en fonction de la profondeur et de la distance, c'est un schéma très simple, où on montre la lithosphère de la plaque plongeante, qui plonge dans le manteau, ici jusqu'à 500 km de profondeur, et les différentes couches introduites dans ce modèle avec différents comportements de déformation, donc une lithosphère élastique et une asthénosphère viscoélastique et un manteau supérieur aussi viscoélastique. Donc dans ces modèles viscoélastiques, il y a une partie de comportement élastique, une partie de comportement visqueux. Donc, on a à la fois, ils sont décrits à la fois par un module d'élasticité, ici E, et un module et une viscosité. Et on peut essayer différents modèles. Alors, la lithosphère elle-même, ce qu'il appelle ici le slab, donc la plaque est d'épaisseur dans ces modèles de la partie rigide de la clape élastique, et de 40 km d'épaisseur. Et donc, pour expliquer les données, il est intéressant de voir que la partie arrière qui correspond à une zone d'extension de bac arc, derrière l'arc, semble être soumise à cette relaxation viscoélastique qui est importante, qu'on voit dans les données. Et pour finir, voici, encore une fois, c'est la même chose, mais vu maintenant de manière synthétique, le modèle montrant les prédictions de déplacement, les prédictions de déplacement de ce modèle viscoélastique, avec des subsidences ici le long de la zone de subduction, et en arrière-arc ici, et au contraire, une surélévation des deux côtés, et qui ont l'air de coller pas trop mal avec les données qui sont données par les déplacements horizontaux qui sont donnés par par les flèches, mais bon, je trouve pas l'accord parfait quand même, mais bon, voilà. Ok, donc ça c'est tout ce que je voulais dire sur le séisme de Sumatra, donc un énorme séisme avec une propagation unilatérale du sud vers le nord et des vitesses de glissement différentes suivant les parties de la faille et sans doute du glissement assez lent dans la partie la plus au nord. Où on a, d'ailleurs par ailleurs, on n'a pas de connaissances historiques de très forts séismes. Donc on peut peut-être imaginer que cette zone-là est moins prompte à casser de manière dans des forts séismes. Mais il faut toujours faire attention avec ce genre d'affirmations, comme on a toujours des surprises. Alors passons maintenant donc au séisme de Fukushima, que nous appelons le séisme de Tohoku, donc je vais sans doute l'appeler Tohoku, qui donc a eu lieu au nord du Japon le 11 mars 2011. Donc un autre de ces séismes géants, un peu plus petit que celui de Sumatra, une magnitude N9.0 comparée à 9.2 pour le séisme de Sumatra, et qui s'est produit dans une zone où la convergence entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie Amérique du Nord ici, pardon, qui est de 8 cm par an environ. Alors, c'est un séisme qui a aussi engendré un très fort tsunami. Donc, je vous rappelle, alors ici, ce dessin, je l'ai trouvé sur Internet rapidement. Il faut l'inverser, puisque la direction de la faille, c'est dans l'autre sens. Mais sinon, l'idée, c'est toujours la même. On a un déplacement dans ce genre de séisme qui a eu lieu sous la mer, dans une zone de subduction, avec donc un mouvement dans un système de convergence où la partie du dessus va monter et celle du dessous va descendre. On déplace un certain volume de la surface du fond marin qui lui-même déplace une masse d'eau qui va ensuite s'étaler en provoquant une onde qui se propage donc à travers l'océan. Alors, ce séisme donc a provoqué un tsunami gigantesque, beaucoup plus fort que celui qui n'avait été prévu et qui était allé au fond, qui est allé beaucoup plus loin dans les terres que n'avait été prévu par les déterminations officielles de risque sismique au Japon à l'époque. Et bien sûr, il a été augmenté par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Alors, nous allons examiner un peu pourquoi on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un séisme de cette taille-là, à cet endroit-là. Mais c'est très important parce que, quand on passe de Manille... il y avait eu une évaluation de la probabilité grand séisme de subduction dans cette région-là en 2002, qui avait donné lieu à certains documents, et donc un document officiel qui était en vigueur encore en 2010. On avait une probabilité de 80 à 90% pour un séisme de magnitude 7.7 à 8.2 dans les 30 années à venir. Donc une très très forte probabilité pour un très fort séisme, mais tout de même un échelon de magnitude inférieur, donc 30 fois moins d'énergie, donc une faille beaucoup plus faible. Donc ici, c'est un dessin que j'ai emprunté. Il y a eu beaucoup d'articles à la suite de ce séisme se posant la question pourquoi on n'avait pas prévu qu'il pourrait avoir un séisme de cette taille-là au large des côtes du nord du Japon. Et donc vous voyez la différence sur la taille de la rupture, simplement la faille, entre un séisme de magnitude 9 et un séisme de magnitude 8. Vous vous souvenez de l'expression du moment sismique qui est proportionnel à la surface de la faille et bien sûr aussi au glissement. Dans un magnitude ici 9, sera plus important que dans un magnitude 8. Alors, jusque-là, on avait à notre disposition certaines idées qui avaient été engendrées dans les années 80, où on avait observé, essayé de comprendre s'il y avait des relations entre la taille des séismes, la magnitude des séismes observés, et certaines propriétés des zones de subduction. En particulier, dans cette carte ici, montrée dans les années 80, la vitesse de convergence et l'âge de la plaque. Et c'est assez logique de penser que plus la vitesse de convergence est rapide, plus on s'attend à voir des gros séismes, et aussi que plus l'âge de la plaque est faible, plus on s'attend à ce que les séismes soient forts, ce qui semblait être corroboré par les séismes observés à l'époque. Ici, quelques magnitudes 9, dessinées ici, quelques magnitudes 8 en vert, hein, vert et rouge, ils sont tous dans ce coin-là, donc des vitesses de convergence assez rapides et un âge très jeune. Or, le séisme de Tohoku a eu lieu dans une zone ici de vitesse de convergence relativement rapide, 8 cm par an, mais un âge de plaque très, très, très grand, hein, 120 millions d'années, donc pas du tout, ne rentrant pas du tout dans cette hypothèse. On a ici les séismes de Sumatra qui a eu lieu, lui, dans une plaque d'âge un peu inférieur, mais pas si jeune que ça non plus, et au contraire, une vitesse de convergence très lente. Donc cette théorie-là a été écartée. Et il y a en plus le problème que même si on n'avait pas fait attention à ça, il y a cette notion de segmentation des zones de subduction, nous en avons parlé un peu, où en particulier au Japon, les zones sismiques avaient été divisées en quatre régions, dans cette région-là, étaient divisées en quatre régions, et du point de vue historique, on avait vu que ici on a séisme en 1707, 1854, 1944 et 1946, et on voit que suivant le séisme, on peut avoir rupture d'un, de deux ou de tous les segments considérés. Donc, si un seul segment se rompt, on a un séisme relativement faible, petit, enfin quand même magnitude 8, on voit ici, mais si on a tous les segments peuvent se rompre à la fois, on a bien sûr un séisme beaucoup plus fort. Ici, dans cette carte, je vous ferai remarquer, ça, c'est Tokai, c'est la région de Tokyo, où, qui n'a pas. Donc, qui, pour laquelle on s'inquiète beaucoup encore, puisqu'elle n'a pas rompu depuis pas mal de temps. Alors, on savait ça avant 2011, mais ça n'avait pas été. Disons, ça n'était pas entré dans la conscience, c'est qu'il y avait eu un tsunami, appelé le tsunami de Jogan, en l'an 869, qui a sans doute été aussi fort que celui de 2011. D'une part, donc, il avait été trouvé dans les documents historiques dès les années 1990 et on avait ou même avant ça c'est simplement un article récent qui a donc évalué toute cette étude de ce tsunami et le séisme et tsunami et on a aussi trouvé une couche de sable associée à ce tsunami déjà en 1990 mais elle a été réévaluée et réétudiée entre 2005 et 2010, donc juste avant le séisme. Ces documents historiques nous indiquent que ce tsunami a pénétré plus loin à l'intérieur de Terre que tout autre tsunami connu jusqu'en 2011. La carte de risque sismique faite au Japon en 2010 prévoit donc dans la région de Sendai, c'est la ville la plus proche, la grande ville la plus proche qui a été affectée par ce séisme, et qui, sur cette carte de risque sismique, on ne voit pas de probabilité de séisme plus fort que les séismes historiques depuis 400 ans. Alors, 400 ans, c'est une date importante, parce qu'en fait, on en déduit facilement que cette période n'était pas suffisamment longue pour voir les plus gros séismes. Donc, comme j'ai dit, l'étendue de ce séisme et de ce tsunami a été entreprise en plus de détails en 2004 et publiée dans les années 2007-2010, d'abord en japonais, et il y a eu une traduction de cet article 2012 après le séisme de Tohoku. Alors, simplement pour vous montrer ce genre de méthode utilisée, donc ici on va tirer de cet article traduit plus ou moins du japonais, accessible avant le séisme de Tohoku. On voit les zones de rupture ici des séismes récents au Japon, en vert ceux dont la magnitude estimée est de l'ordre de 8, et en bleu quelques-uns de magnitude un peu inférieure, de magnitude 7. Et donc la zone qui a été étudiée du point de vue stratigraphique, c'est cette zone-là, qui est ici agrandie. Donc ici, vous avez Sendai est ici. Et encore en plus de détails, on voit ici les études stratigraphiques qui ont été faites. Celles des années 90 avaient été faites dans cette partie nord ici. Et celles qui ont été entreprises à partir de 2004 sont donc notées par ces segments S6, S7, etc. Là, on voit en bleu pâle l'étendue de la mer, du tsunami, jusqu'où a été l'inondation. Je répète ici cette carte, et pour vous donner une idée de la comparaison avec le tsunami de 2011, on voit ici cette flèche, donc ça c'est une coupe, dans cet endroit-là. Ça, c'est en marron, ce sont les régions plus surélevées c'est pas la côte, ce sont les régions surélevées. La ligne de côte est ici, et la zone d'inondation en bleu clair. J'espère que c'est visible de loin. Et donc on voit l'inondation provoquée par le tsunami de 2011, et par rapport à ça, l'étendue de cette couche de sable qu'on a associée avec le tsunami, qui donc a été déposée par le tsunami de 869, qui s'étend jusque-là. Alors, bien sûr, la zone de côte a changé depuis. La zone de côte qui a été estimée de l'époque est ici, et la limite de la côte actuelle est ici. Alors, donc une coupe ici, pour aller en un petit peu plus de détails, une coupe stratigraphique où on voit des couches de sable entrecoupées par des couches de tourbe et de charbon qui permettent de dater les couches de sable, et où on observe plusieurs couches de sable qu'on a pu associer avec certaines avec des séismes, avec des tsunamis exactement. En particulier, la couche A, la plus superficielle, la plus récente, donc la plus récente est au-dessus, est associée avec un tsunami de l'an 4454, dont je reparlerai un peu. Et cette couche orange est celle qu'on a associée avec le séisme et tsunami de Jogan de 869. Alors, j'ai encore un dessin ici, donc encore une fois ici une coupe, un zoom dans une région très particulière avec la coupe correspondante, où on voit ces couches de sable D et C et la couche correspondant au le dépôt de sable de Jogan. Et elle est datée grâce à la présence de tourbe et de charbon qui a permis la datation au carbone 14. Et aussi, on a pu l'associer avec une immersion, donc une inondation qui provient de la mer, en étudiant les diatomes trouvés dans cette couche de sable, qui sont très différents s'ils proviennent donc d'un milieu d'eau salée que d'un milieu de rivière. Il y a aussi, en plus, l'observation de... Tiens, il faudrait que je mette ça. On voit ici, c'est une photographie de cette coupe. On voit les couches, les différentes couches de sable, etc. On a pu déterminer l'intervalle de temps qui sépare les différentes couches. Et la dernière, juste plus ancienne, plus, par âge, plus ancienne que celui d'orange de Jogou est de l'ordre de 500 ans seulement. Il y a une autre observation importante qui est une observation de subsidence associée à cette couche de sable, parce qu'il faut pouvoir aussi distinguer des couches de sable qui auraient pu être apportées par des tempêtes ou par des tempêtes maritimes, des tempêtes océaniques, ou par des tsunamis qui auraient eu lieu de l'autre côté du Pacifique et qui auraient aussi provoqué une inondation. Donc il faut, pour cela, il faut non seulement donc étudier la couche de sable elle-même, mais aussi la nature des fossiles dans cette couche et aussi la déformation, donc l'évidence de subsidence qui a eu lieu. Alors ici, c'est simplement un résumé en fonction du temps des différentes des observations donc, de ces études stratigraphiques qui montrent l'évidence d'autres tsunamis donc, plus anciens, qui n'ont, je pense, pas encore été étudiés à fond. Celui de 869, qui donc, a aussi été très bien daté et dont dont l'extension nord a été bien déterminée parce qu'il y a aussi eu une éruption volcanique en 915, je vais vous le montrer sur la carte dans la diapo suivante, qu'on peut dater précisément à partir des documents historiques et aussi diverses méthodes de datation, mais dont on peut utiliser l'étendue qui n'est pas allée très au sud. Donc on ne peut pas utiliser cette date partout. Et ensuite, il y a encore des couches de sable correspondant à des tsunamis plus récents. Donc voilà, alors en résumé, il y a eu une modélisation faite de la rupture présumée, de la zone de rupture présumée du tsunami, du séisme de 869 qui a donné lieu au tsunami, avec une estimation de magnitude de 8.4. Alors ici, on voit justement, donc ça c'est le volcan qui est entré en éruption en 1915 et qui a donc produit une couche de cendres dont l'étendue est marquée ici par les pointillés et donc qui coupe ici la côte dans la partie nord. Par contre, dans la partie sud, on ne peut pas utiliser ces données-là, donc des données moins précises. Donc, pour le tsunami de 1869, on a donc d'une part une datation de la couche de sable. En plus, l'évidence de subsidence associée au dépôt BC. Alors ça aussi, ça fait intervenir la nature des diatomes observés. Et donc, elle a été modélisée. On a essayé plusieurs modèles de modèle pour la source en la déplaçant, en changeant sa taille. Enfin, c'est une modélisation assez grossière, bien sûr. Et donc on a trouvé qu'on pouvait expliquer toutes les données par une rupture de 100 km de large, de 100 km de long, un glissement moyen de 7 mètres et une magnitude de 8.4. On a aussi, bien sûr, simulé les tsunamis pour tous ces essais de zones de rupture pour voir ce qui collait le mieux avec les données. La limite sud peut contrainte. Et donc, ce qui est à souligner, c'est que ces données ne nécessitent pas de déglissements énormes près de la fosse. Ici est la fosse, hein, où nous allons voir que le glissement pendant le séisme de Tohoku a été très important. Et on ne peut pas non plus distinguer, dire si en 869, il y a eu un seul très gros séisme ou plusieurs segments. Donc, qui se seraient rompus successivement, mais pas au même moment, et qui auraient donc donné lieu à cette couche de sable. Donc, pas mal d'incertitudes. Mais, comme en ont conclu les scientifiques japonais, malgré ces incertitudes, avoir cette information, la diffuser à l'époque, donc rapidement, après. Le problème, c'est vraiment on a ces résultats donc d'études scientifiques, et comment faire passer ça donc dans les annonces officielles. Il y a toujours on met longtemps à transférer ces informations, et donc l'idée est d'essayer de plutôt disons peut-être exagérer le risque pour en augmenter la perception dans la région, donc point de vue du public. Alors, juste encore pour terminer cette histoire de datation de tsunami par stratigraphie, une étude plus récente, très récente de ces mêmes auteurs, concerne ce séisme de 1454 dont nous avons vu aussi une évidence dans les couches de sable. Ici, c'est la couche de sable correspondant à ce séisme qu'on voit ici dans la stratigraphie, et qui aurait pu, selon ces auteurs, aussi donner lieu dû à un séisme qui pourrait être de magnitude 8.4, mais qui aurait pu aussi être plus grand, donc en 1454. Donc, conclusion, la récurrence de ces très très forts séismes n'est peut-être pas aussi longue, le temps de récurrence n'est peut-être pas aussi long qu'on pense. Bon, alors, voyons tout de même, donc ça c'est bien sûr les tristes nouvelles de ne pas avoir su. Les sismologues japonais étaient extrêmement affectés par cette erreur qu'ils ont faite de ne pas avoir pensé qu'il pouvait y avoir un séisme de magnitude 9 dans cette région. Et en particulier dans la construction des murs anti-tsunami, on n'avait pas prévu cette taille de séisme. Mais disons que les raisons, on les voit ici, ça n'est pas du tout évident. Alors, parlons maintenant de des informations au moment du séisme et après le séisme. Donc, d'abord, je rappelle encore une fois le contexte tectonique assez complexe, avec trois plaques, même quatre, qui interviennent ici. Donc au nord-ouest, la plaque Eurasie nord-américaine, au sud-est, la plaque Pacifique, mais aussi la plaque des Philippines, qui donc est coincée entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie, avec deux zones de subduction, la zone Isubonin ici, et la fosse de Nankai et de Ryukyu ici. Bon, le séisme a eu lieu au nord de cette complexité, mais tout de même dans une région de manière générale assez difficile. Par contre, les données sont bien meilleures déjà qu'en 2004. En 2004, je vous avais montré que les données étaient déjà extraordinaires du point de vue global, puisque ce séisme avait été capté par un réseau global de sismomètres d'excellente qualité qui avait été construit depuis les années 80, donc depuis les derniers très forts séismes de magnitude 9 qui avaient eu lieu dans les années 60. Au Japon, avant le séisme de 2011, il y avait eu le séisme de Kobe, hein, que les Japonais appellent le grand séisme de Hanshin, de 1995, séisme de magnitude 6.9 qui a eu lieu plus au sud et qui a détruit la ville de Kobe, qui a donc près de 6500 morts, 100 000 bâtiments détruits, plus de 132 millions de milliards de dégâts, qui a fortement secoué le Japon et l'économie japonaise, puisque c'était le port le plus important du Japon jusque-là. La ville de Kobe a été complètement reconstruite. Il se trouve que j'y suis allée cet été. on ne voit pas, sauf le musée, on ne voit pas de traces de ce séisme, mais le port n'a pas repris la grande vigueur qu'il avait donc dans les années 90. Mais à la suite de ce séisme, donc, les Japonais ont pris, ont retroussé leurs manches et ont installé plusieurs réseaux de surveillance, de réseaux géophysiques, très denses sur toutes les îles du Japon, dont donc un réseau dense de GPS, ici indiqué par les triangles bleus, quelques stations GPS fond de mer, hein, ocean bottom ici, un réseau de mouvements forts, hein, d'accéléromètres de mouvements forts qu'on appelle CANET, et quelques autres réseaux. Il y en a même d'autres, un réseau largement appelé FNET, qui est de très bonne qualité aussi, qui n'est pas indiqué sur cette carte. Alors, donc, au moment du séisme, donc, on avait, ou même avant le séisme, puisqu'on a, ces installations ont été installées à la fin des années 90, on avait des données importantes, en particulier sur les vitesses intersismiques, donc horizontales et verticales, ici indiquées pour la période 96 à 2000, donc 4 ans de données en moyenne, les vitesses horizontales indiquées par les flèches, vitesses verticales qu'on ne voit pas très bien parce que c'est des barres, des toutes petites barres dans ces stations. Et donc ces vitesses ont été obtenues donc par rapport, donc c'est des vitesses relatives à un point de référence, hein, qui se trouve ici à la partie est du Japon. Et donc un réseau de 256 stations. Ce qu'on voit ici, c'est les contours d'égale profondeur de la plaque de subduction qui plonge sous le Japon. Et donc ça a permis de calculer, d'estimer le déficit de mouvement dans cet endroit de la plaque, en comparant avec ce à quoi on s'attend sur le mouvement de convergence de ces plaques à partir de, disons, d'une solution sur le globe entier, qui donc est de l'ordre de 8 cm par an, un peu plus de 8 cm par an. Et ça a permis donc de faire une estimation du déficit de glissement, qui est indiqué ici dans cette carte par ces contours bleus, où chacun, donc les contours correspondent à des déficits de glissement constants, 3 cm, 6 cm, 9 cm par an. Alors on voit que ce qu'il y a des zones ici qui sont complètement couplées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement qui se passe, donc des zones favorables à l'occurrence de forts séismes. Il y a des zones où, au contraire, le glissement est plus important, ici en rouge, donc un surplus de glissement, si vous voulez, en arrière. Mais ces zones, donc, il y en a 4 ou 5, donc, à l'époque, ont été considérées comme les zones les plus probables des forts tremblements de terre à venir. Et ça a été conforté par la comparaison, donc c'est un article de Hashimoto de 2009, donc avant le séisme de 2011, conforté par la comparaison avec les zones de rupture estimées pour les séismes de magnitude supérieure à 7,5 depuis 1900, qui sont indiqués ici en vert. Et vous verrez l'excellente correspondance entre ces zones de rupture qui donc correspondent à des séismes qui ont effectivement eu lieu, tous des séismes donc de magnitude 7 ou 8, et la zone estimée sur la base de ces données GPS sur les zones qui sont coincées sur la plaque. Et donc, ils en ont déduit que, effectivement, ces zones-là sont les zones qui sont les zones à risque les plus importantes, donc de séismes et de tsunamis associés, hein, puisqu'encore une fois, ce sont des séismes de zones de subduction avec donc un mouvement vers le haut de la partie de la plaque qui se trouve au-dessus. Et voilà. Alors, ce qui n'a pas été prévu, c'est qu'en fait, la zone de Tohoku, elle a couvert, non seulement, elle a couvert une plus grande partie. Ici, c'est la fosse, hein, c'est l'endroit où la plaque pacifique pénètre sous l'autre plaque. Et donc, vous voyez que ces zones de rupture ne couvrent qu'une partie de la zone de subduction proche de la côte. Alors, il y a bien sûr le problème aussi, c'est que toutes les observations sont sur la terre ferme, ou presque. Il y a quelques stations GPS en fond de mer à l'époque. Et donc, les observations sont moins précises sur les déformations ou leur absence donc, au large des côtes. Alors, donc, ça explique aussi pourquoi donc, ce séisme est venu comme une très grande surprise au Japon. Mais pour parler maintenant de choses qui ont quand même marché, je voulais quand même passer quelques temps, un tout petit peu de temps, sur le système d'alerte rapide au Japon, d'alerte sismique rapide au Japon, et sa performance au cours du séisme, de ce séisme, qui en fait a été très bonne. Ça a très bien marché, comme je voulais. Malheureusement, ça n'a pas empêché la quantité de victimes dues au tsunami, mais le système d'alerte sismique lui-même a très bien marché. Alors, bon, on ne va pas entrer dans les détails de ce schéma, simplement pour dire comment l'idée... C'est que donc c'est cette alerte rapide qui est donnée par la Japan Meteorological Agency, donc l'agence météorologique japonaise, qui utilise comme entrée une magnitude, la première magnitude estimée, donc en regardant l'amplitude maximum, donc une magnitude un peu comme la magnitude dont je vous ai parlé au début, la magnitude locale en Californie, hein, qui est basée sur l'amplitude maximale. Ensuite, on a une relation qui permet d'estimer la magnitude MW correspondant, et une longueur de faille. Et en utilisant des relations d'atténuation, ce sont des relations qui vont nous donner l'atténuation des vibrations en fonction de la distance depuis la source du séisme, depuis l'hypocentre, on peut déterminer les vitesses du mouvement du sol maximal estimé et les corriger dans chaque site où on va donc prédire ces mouvements par une correction de site, une amplification due aux conditions locales sous l'endroit particulier, le site particulier. Et on en déduit une intensité, aussi par une formule, qui est qu'on appelle l'intensité, mais c'est une intensité instrumentale, qui donc est très rapidement déterminée et diffusée par télévision, radio et site web par donc l'agence météorologique 2 minutes après le temps origine. Déjà 2 minutes après le temps d'origine, et réactualisé ensuite, je ne sais pas ce que je voulais dire ici, mais donc plus progressivement. Et donc ces estimations d'intensité sont données sur 4300 sites au Japon, et le Japon est divisé en plusieurs régions, parce qu'on va, on va donner l'alerte différemment suivant la distance au séisme. Alors, ici, c'est pour illustrer un peu comment la magnitude, parce que la magnitude a été un problème pour ce séisme, même l'estimation au moment du séisme a été un problème, il était sous-estimé. Donc, dans chaque station, donc ici, c'est d'abord le premier hypocentre, ensuite il a été réactualisé. Donc ça, c'est les différentes réactualisations de la première à la septième, de la huitième à la quinzième, réactualisation de l'alerte. Les premières stations qui enregistrent et donc en fonction du temps, ici en secondes, les magnitudes donc estimées dans le cadre de ce qui sont rentrées dans cette alerte en fonction du temps, qui ont été progressivement augmentées, mais qui sont restées en dessous de 8,5, même après 1 minute donc d'évaluation. Alors ici, c'est un résumé de l'alerte. Alors, je vais vous rappeler en quoi consiste cette alerte. Qu'est-ce qu'on exploite ? On exploite le fait que lorsque le séisme a lieu, la première onde qui arrive donc, dans un endroit donné, c'est l'onde P, c'est l'onde de compression qui, en général, donc qui se propage le plus rapidement, mais qui ne cause pas de dégâts. C'est une onde de compression. L'onde dangereuse, c'est l'onde S, qui, heureusement, se propage plus lentement. Alors, je vous rappelle qu'elle est plus dangereuse parce qu'elle provoque des mouvements horizontaux pour lesquels les bâtiments ne sont pas prévus. Les bâtiments sont prévus pour résister à la gravité. Et cette onde a aussi une période un peu plus longue que l'onde P, qui, pour certains bâtiments, résonne avec leur période de résonance naturelle, et donc cause des problèmes. Alors ici, on voit OT, c'est le temps origine du séisme, et on va regarder les alertes suivant les alertes successives ici à 28 secondes du temps origine, 30 secondes, 31, 45 secondes. On voit là où est arrivée l'onde P. Donc ici à 28 secondes après le temps origine, l'onde P est déjà arrivée sur la côte, mais l'onde S n'a pas encore atteint la côte. Donc les premières stations enregistrent ce séisme. Elles donnent une première sorte d'avertissement. En jaune, c'est un avertissement qu'il va y avoir un mouvement fort. Et à 30 secondes, l'onde S n'est encore toujours pas arrivée. Vu les magnitudes donc, qui sont réévaluées, on réévalue cet avertissement en une véritable alerte qui couvre une plus grande région, ici indiquée en rose. Encore, à 31 secondes après le séisme, l'onde S n'a toujours pas atteint les côtes. L'onde S atteint les côtes déjà à 45 secondes, mais disons que l'alerte a déjà été donnée. Et donc ensuite, on voit comment ces alertes sont donc réévaluées au cours du temps, en particulier l'estimation de l'alerte donc en arrière, donc plus loin du séisme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu tout de même un problème, c'est que l'alerte qui a été donnée a sous-estimé les mouvements forts dans la partie sud, ici, dans la région de Kanto, pour ce séisme. Ici, on voit une comparaison avec les points rouges, c'est les mouvements effectivement ressentis, qui ont été plus forts dans cette zone-là, mais qui sont arrivés plus tard. Et ça, on verra, c'est une partie très intéressante de cette rupture. Alors, ici, j'ai un petit film pour le montrer. Et vous allez voir, donc ici, je vais expliquer tout de même. Donc, on va voir à droite, on voit le temps, donc au fur et à mesure du temps, quand arrive l'onde P, quand arrive l'onde S, dans différentes stations indiquées ici. Et ça, c'est des enregistrements d'accélération dans ces stations qui montrent des accélérations. Il y a eu plusieurs, plusieurs sources, enfin plusieurs arrivées d'énergie qui sont écoulées, qui sont produites sur un temps assez long. Et en particulier dans le sud, vous avez ici une énergie qui est arrivée assez tard, 150 secondes après le temps origine, mais très forte, aussi forte que ces autres énergies avant. Alors, donc on va voir ça. Là, on va voir à gauche, on va voir les alertes, et à droite, on va voir à quoi ça correspond. Alors, j'espère que ça marche. Donc, vous voyez ici, on va voir l'onde P, l'onde S. On peut la suivre ici aussi, c'est assez difficile à suivre en même temps, bien sûr. Voilà, arrive aux premières stations. Là, les alertes, vite upgradées en plus forte alerte, et progressivement atteignant les parties plus lointaines du Japon, avec malheureusement une alerte insuffisante donc dans cette partie sud. Ceci dit, il n'y a pas eu énormément de dégâts dans cette partie-là. Par contre, on peut se demander pourquoi, et la raison, c'est que, en fait, c'est la durée de la rupture et son étendue spatiale qui n'est pas prise en compte ou n'était pas jusque-là prise en compte dans ce genre de modèle, qui servait donc pour l'alerte. Alors j'arrête là, parce que ça suffit. Et donc ici, on peut comparer encore une fois les alertes, les estimations d'intensité, l'intensité qui a été effectivement perçue. Voilà. Alors, on s'est demandé ensuite, est-ce qu'on aurait pu, parce que l'idée d'un système d'alerte rapide, c'est bien sûr de donner l'information le plus rapidement possible, puisque quand on est loin du séisme, on a le temps, on a pas mal de temps entre l'onde P et l'onde S. Plus on est loin du séisme, plus l'intervalle entre l'arrivée de l'onde P et l'arrivée de l'onde S est long. Mais quand on est près du séisme, ce temps peut être très court, donc il faut pouvoir donner l'alerte le plus vite possible, si possible, dès qu'on détecte le séisme. Alors, il y a une discussion dans la communauté pour savoir est-ce qu'on peut prédire, enfin, ce n'est pas vraiment la prédiction, mais au sens de prédire avant, le séisme a déjà commencé, mais est-ce qu'on peut, à partir des premières secondes d'enregistrement, estimer de manière correcte ou suffisamment correcte la magnitude de ce séisme. Alors ici, pour regarder ceci après donc le séisme de Tohoku, on a comparé les enregistrements du séisme lui-même, donc le séisme de magnitude 9.0, avec les enregistrements d'un séisme qui a eu lieu avant le grand séisme, un fort choc, de magnitude 6.0 dans la même région. En fait, il y en a trois, on va regarder trois, un de 6.0, 7.3, et ici, c'est l'épicentre du séisme de magnitude 9. Donc, en haut, on voit l'enregistrement du magnitude 9, en bas, celui du magnitude 6, à la même échelle, on ne voit presque rien. Donc, ça, c'est en accélération. Ici, donc, c'est agrandi pour voir sa sature pour le grand séisme, c'est pour qu'on voit quelque chose au niveau du magnitude 6. On voit l'onde P, puis l'onde S. Et ici, c'est la même chose, mais en déplacement, donc intégré deux fois pour avoir le déplacement. Et on observe aussi l'absence de... on ne voit rien ici, mais quand on regarde de plus près, on voit un déplacement assez fort aussi pour le magnitude 6 au début, et il n'est peut-être plus fort même que celui du magnitude 9. La même chose ici en accélération, j'ai oublié de le mentionner. Alors ceci, pourquoi ? C'est parce que dans ce séisme particulier de magnitude 9, le début de la rupture a été faible. La rupture principale est arrivée plus tard, n'a pas été détectée, sa taille n'a pas été détectée tout de suite. Alors, c'est bien sûr plus difficile. On peut dire, oui, c'est pas important de détecter la rupture, l'instant où a commencé la rupture. Ce qui est important, c'est de détecter la partie la plus importante, mais c'est aussi plus difficile parce que les enregistrements, le signal arrive dans la coda du début de la rupture et va cacher les détails. Mais alors, de manière classique, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut dire du déplacement maximal, la vitesse maximale, l'accélération maximale et aussi certaines autres mesures qui mesurent la période moyenne, c'est cette expression-là, on divise l'intégrale du déplacement, du carré du déplacement par l'intégrale du carré des vitesses. Si vous passez dans l'espace des fréquences, ça va vous donner une période moyenne pondérée par le spectre du déplacement. Et on calcule cette quantité sur un temps, une certain intervalle de temps. TP, c'est l'arrivée du temps P dans la station où on regarde, et TN, c'est la durée sur laquelle on va faire ce calcul et on la veut la plus courte possible. Et donc ici, c'est une comparaison de ces quatre séismes, y compris celui de magnitude 9, 1, 2, 3, 4, Enfin, ouais, il y en a deux de magnitude 7, je crois. Non, deux de magnitude 6 et un de magnitude 7 et un de magnitude 9. En fonction de donc les différentes quantités, l'accélération, la vitesse, le déplacement et ce paramètre tau. Donc, en fonction de la longueur de l'intervalle sur lequel on calcule ces quantités. Et on peut voir, ce qu'on veut, c'est le rapport, c'est, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre le magnitude 6 et le magnitude 9 à 3 secondes, pour une durée de 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. 6 secondes, on commence peut-être à voir quelque chose. 10 secondes, on commence peut-être à voir quelque chose, mais cette tendance ne s'affirme qu'au bout de 20 ou 30 secondes. Donc, vraiment pas utile pour une alerte rapide, malheureusement. Et c'est pareil dans les spectres. Si on peut voir, est-ce qu'on peut voir une différence entre le spectre de calculer le spectre du, donc de l'enregistrement du déplacement ou de l'accélération ici qu'on observe sur les premières secondes entre ces magnitudes 9 et par exemple la magnitude 7 on s'aperçoit que on voit des différences sur 30 secondes si on prend un spectre sur 30 secondes d'intervalle, hein, 30 secondes ici, mais disons on ne voit pas grand chose pour des longueurs plus petites. Les différences spectrales ne sont pas significatives. Donc là aussi, enfin, on le voit ici dans le rapport des spectres, hein, on voit se distinguer une tendance pour une durée de 30 secondes. Si on prend le spectre sur une durée de 130 secondes, mais en 10 secondes, on ne voit rien. Voilà. Donc ça, c'est pour donc, l'alerte sismique. Alerte tout de même a marché, puisque les gens ont été prévenus de l'arrivée de l'ondes avant qu'elle n'arrive sur les côtes du Japon. Ceci dit, ça n'a pas été beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé puisque le désastre a surtout été dû au tsunami. Alors regardons comment a fonctionné l'alerte au tsunami en 2011. Donc ici, cette alerte est basée, donc un système d'alerte au tsunami qui existe depuis 1952 au Japon. Au début, c'était manuellement, on lisait des cartes de propagation des tsunamis et il fallait 20 minutes pour donner l'alerte. Cette méthodologie a été remplacée par une méthodologie plus quantitative en 1999, donc il y a une quinzaine d'années, où on a pré-calculé 100 000 ou plus scénarios, c'est-à-dire des simulations de tsunamis pour différentes localisations et tailles de rupture. Et donc, on a une base de données qu'on peut aller... Parce que ce calcul, est bien sûr, prend du temps et on veut ne passer le moins de temps possible pour donner l'alerte. Et donc, on a une base de données qu'on peut aller consulter une fois qu'on connaît la localisation du séisme et sa magnitude. Et donc, il y a trois nouveaux... Enfin, ça, c'est à l'époque, hein, je parle de l'époque du tsunami donc, de 2011. Trois niveaux d'alerte. Un niveau d'alerte, c'est qu'on pense qu'il y aura un tsunami majeur, c'est-à-dire de hauteur de vagues de plus grande que 3 mètres. Un tsunami simple, c'est 1 ou 2 mètres. Et un avertissement de tsunami si on pense qu'il y aura 50 cm de tsunami. Et donc, là, encore une fois, c'est divisé, le Japon est divisé en 66 régions côtières. Donc maintenant, c'est seulement les régions côtières qui sont affectées. Et les annonces sont faites par télévision, radio, des sirènes et des haut-parleurs. Et là, donc, on peut voir, donc, il y a aussi quelques stations fond de mer reliées par des stations bouées, reliées par des bouées GPS. Et il y en avait un total de 188 en janvier 2012, donc quelques-unes de plus qu'au moment du Japon, du tremblement de terre. Alors, ici, on voit les bulletins, donc c'est pareil, ce sont des bulletins qui sont réactualisés assez souvent. Ici, on voit le premier, le 11 mars à 14h49, donc juste après le séisme qui a eu lieu. Si je me souviens bien, à 14h46, voilà, je l'avais marqué quand même. Donc 3 minutes après le séisme, et qui donc ici réactualisé, c'est le lendemain, hein, donc à 3h du matin, donc après quelques réactualisations, il y en a eu quelques-unes entre-temps, et donc on voit le changement dans ce... Le rouge indique l'alerte, si c'est le tsunami majeur, orange tsunami moyen et jaune tsunami faible. Et donc, mais il faut noter que ça a été estimé sur la base d'une magnitude 7.9 puisque c'est la magnitude qui a été estimée le plus rapidement. Enfin, rapidement, et donc qui a servi dans... d'input pour ce calcul. Et donc la première a prévu 6 mètres de tsunami dans la préfecture de Miyagi et 3 mètres dans les préfectures de Iwate et Fukushima. Ils ont été updatés à 6 à 10 mètres à 15h30, je pense, donc au bout d'une heure, et 3 à 6 mètres dans cette région-là. Alors ici, c'est les enregistrements, les observations de tsunami dans les stations, montrant comment les niveaux de tsunami sont progressivement réévalués. Donc ça c'est l'épicentre. Les diverses stations avec les stations offshore, les stations donc fond de mer ici, une bouée GPS, par exemple celle-ci, ici une autre, et on voit les niveaux au cours du temps, ici entre 14h entre le temps origine du séisme, ici on a 15h, 15h30 ici, les paliers progressifs d'alerte. Et ici c'est le résultat final, les hauteurs de tsunami qui ont été en fait observées et qui ont saturé, donc ça c'est la hauteur en mètres, hein, qui ont saturé dans pas mal de stations, le tsunami était bien supérieur à 10 mètres. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Sur le fonctionnement du système d'alerte. Comme je l'ai dit, le système d'alerte sismique a bien fonctionné. Bon, malheureusement, ce n'était pas ça le plus important, mais ça permet quand même... Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas seulement la population générale qui est avertie par télévision et autres moyens, mais il y a aussi des agences privilégiées comme les trains, les compagnies de trains ou les compagnies d'ascenseurs qui sont reliées de manière automatique à ce système d'alerte et qui donc produisent l'arrêt des trains ou certains ascenseurs au moment où ils reçoivent l'alerte, ce qui permet d'éviter des déraillements de trains et de gens coincés dans les ascenseurs. Bon. Donc la magnitude initiale a été sous-estimée à cause de la saturation de l'échelle de magnitude utilisée dans l'alerte et ceci a sans doute provoqué un retard dans l'évacuation des gens. Et donc, des leçons en ont été tirées après le séisme, que donc les autorités japonaises donneront une alerte qui ne sera pas forcément complètement dépendante de la magnitude estimée, mais sera donnée avec une magnitude maximale crédible dans la région. Donc, dans ce cas-là, ça serait effectivement une magnitude 9, donc probablement, possiblement surestimée, mais... Les observations de comportement montrent que c'est préférable. Et donc, les hauteurs de tsunami seront données de manière qualitative plutôt que numérique pour mieux sensibiliser le public. Et bien sûr, en même temps, il faut essayer d'estimer mieux la magnitude MW. Alors, donc, comme je vous ai dit, jusque-là, ils utilisaient une magnitude locale, en fait, basé sur l'amplitude maximum, mais nous avons parlé déjà de la différence avec l'estimation de la magnitude MW qui donne vraiment une estimation de l'énergie. Et le problème, c'est que pour déterminer cette magnitude-là, il faut avoir des sismomètres large bande, il faut enregistrer dans une large bande de fréquence pour avoir une vue plus générale du séisme. Et beaucoup de sismomètres large bande au Japon ont saturé. Donc les données n'étaient pas utilisables. Ils ont saturé, leur dynamique n'était pas suffisamment grande pour voir toute l'amplitude du mouvement. Et donc les Japonais ont entrepris d'installer 86 mètres largement de plus grande dynamique pour pouvoir calculer cette magnitude MW en un temps plus rapide, en moins de 15 minutes. Il faut aussi un peu de temps pour le calculer, puisqu'il faut attendre qu'arrivent les ondes de surface pour avoir l'énergie de longue période. Et donc, ils veulent aussi implémenter une méthodologie d'inversion rapide de la source du tsunami, donc pour avoir une idée plus précise de l'étendue de la source dès le départ. Voilà. Et puis, donc, installer des réseaux câblés de mesures de pression et sismomètres en fond de mer, puisque là, il y avait quelques stations, mais en en ayant plus, on peut donc calculer ou obtenir une alerte plus rapide, puisqu'on est plus près de l'hypocentre. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours, et c'est très impressionnant de voir comment le Japon a mis des ressources, de même qu'ils avaient fait la même chose pour leur réseau terrestre à la suite du séisme de Kobe. Ils ont fait un effort énorme pour installer des sismomètres câblés fond de mer depuis ce temps-là. Alors, bon, je vais passer rapidement sur la chronologie. Donc, maintenant, on n'est plus à l'alerte rapide, qu'est-ce qui s'est passé après. Mais pour montrer qu'on est quand même capable d'avoir des renseignements assez rapidement, ici, c'est la solution du tenseur des moments, donc le mécanisme à la source avec les balles de plage, là, et la détermination du moment sismique, rapidement. Une première estimation 34 minutes après le temps origine, faite donc à partir des données globales déjà, ensuite réactualisée. Une détermination au Japon, donc 2h30 après le temps origine, presque 3h après le temps origine, aussi de l'ordre de 8.8. Ensuite réactualisation 6h, 7h, etc. Et finalement, un tenseur des moments global. Obtenu avec pratiquement la magnitude finale, elle était réduite à 9.0 ensuite, qui a été obtenue 3 jours après le temps origine. On a vu avoir une image de la source très rapidement aussi, ici 7 heures après le temps origine, montrant donc ici le glissement très fort, très important, donc un glissement de 30 mètres au plus, qu'on avait déjà cette notion 7 heures après le temps origine. Et l'observation que le glissement, la rupture, a principalement affecté la partie peu profonde près de la fosse. La fosse, elle est indiquée ici en rouge, hein, et on voit en dessous, en bleu, c'est la profondeur du fond marin. Et on voit que l'énergie est dégagée ici près du côté plutôt de la fosse que de la côte. Ensuite, donc, il y a eu beaucoup d'autres solutions qui ont montré au fur et à mesure qu'en fait, les glissements ont atteint ou dépassé 50 mètres. Ce qui a vraiment étonné, c'est le glissement le plus important qu'on ait jamais vu, depuis qu'on est capable de mesurer le glissement. Encore pas mal de... Ici, c'est les zones, c'est la distribution spatio-temporelle des répliques de ce séisme, où on voit un peu l'étendue plus générale de la rupture. Et ici, en fonction du temps, et de la position en latitude, il y a eu quelques forts chocs, ensuite le gros séisme, quelques grosses reptiques et continuent dans le temps. On les voit ici aussi en fonction du temps, avec en moyenne une diminution de la magnitude du séisme en fonction du temps. Alors, j'en viens aux distributions du glissement, donc qui a été. Je vais encore montrer quelques modèles, je ne vais pas m'attarder dessus trop, mais encore une fois, donc précisé ici par les ondes, l'utilisation des ondes P télésismiques en fonction du temps, on obtient encore une fois, donc ça c'est plutôt une inversion classique de glissement, hein, pour avoir le glissement sur toute la faille, qui montrait le glissement très important près de la fosse, donc à faible profondeur, et ensuite conforté par l'étude des déplacements GPS au cours de ce séisme. Encore une fois, vous voyez un énorme déplacement de plus de 2 mètres ici, vers l'est, Et donc, ici, données utilisées GPS et les données de tsunami, on distingue le séisme principal et une réplique très forte de magnitude 7.9 qui a eu lieu 30 minutes après. Et donc, ce modèle de glissement montre aussi un glissement fort dans la région peu profonde de la zone de subduction, mais a priori pas très question de savoir si la rupture a été jusqu'au bout, là, jusqu'à la fosse. Là, quelques enregistrements du tsunami, mais bon, je pense que je vais passer parce que je vois que je suis un petit peu en retard sur ce que je voulais montrer. Voilà, oui, alors les enregistrements de tsunami, je les montre, parce qu'il y a aussi eu plus tard des inversions de ces données de tsunami plus précises. Et à partir des formes d'ondes du tsunami observé, on a pu montrer que le glissement très fort, hein, donc supérieur ici à 40 mètres et plus de 50 mètres en fait, très proche, très superficiel, très proche de la fosse. Et en même, donc ça montre la comparaison avec une paramétrisation plus fine, on met le glissement le plus fort encore plus près de cette fosse. Et ça a été corroboré, le fait que le glissement est allé jusqu'à la surface par des mesures qui ont été faites ensuite, par des mesures des campagnes de bathymétrie, qui ont montré, alors bon, ça c'est un diagramme compliqué, mais ce qu'on montre en haut, regardons d'abord ce qu'il y a en haut, ce qu'on voit ici, c'est la bathymétrie, hein, donc la topographie, ou la profondeur du sol marin, hein, par rapport à la surface de la mer, qui donc est de plus en plus de moins en moins profond vers la côte, ici, avec l'axe de la fosse ici, l'endroit le plus profond. Et ensuite, on a comparé, donc on a fait la différence entre la topographie observée pendant une campagne en 1999 et une autre en 2004, et après le séisme de 2011. Alors, le lieu où cette campagne a été faite est indiqué ici dans cette carte, hein, qui montre encore une fois la même chose, les mêmes couleurs qu'ici, à la profondeur du sol marin. Et par contre, ici, l'échelle elle est en bas, ce n'est pas la même, c'est le changement, hein, entre les deux. On a confronté les deux cartes et donc on a pu voir la différence. Et le changement dans la hauteur du fond marin, on voit en rouge là où, où il a été surélevé et en mauve où il a été où il s'est rabaissé. Et on voit que la région surélevée va vraiment jusqu'à aussi bien dans ces intervalles-là que dans l'intervalle plus court de 2004, on voit que cette surélévation a affecté jusqu'à la fosse. Par contre, ici, on a comparé les deux campagnes précédentes, 2004 à 1999, où on n'a pas vu ce genre de différence. Donc, ces différences-là sont bien dues au mouvement pendant le séisme. Alors, par contre, alors, la surprise, c'est que quand on regarde à haute fréquence, hein, je vous avais dit, déjà, quand j'avais introduit les différentes méthodes de cartographie du glissement sur la source, qu'on avait cette méthode de rétroprojection de l'énergie à haute fréquence, hein, qui permettait de suivre la distribution dans le temps et dans l'espace de l'énergie à haute fréquence. Et quand on a fait ça en utilisant deux réseaux ici, un réseau aux États-Unis, le réseau USARE, qui se trouvait à cet endroit-là au moment du séisme, donc au milieu des États-Unis, et un réseau européen, donc toutes les stations ici au centre de l'Europe. Et on voit, en fonction du temps, la couleur montre le temps, hein, où est arrivée l'énergie en fonction du temps, donc propagation surtout vers le sud, hein, en noir ici à 150 secondes tout en bas, mais aussi un peu vers le nord, couleur rouge. Mais le plus important, c'est que cette énergie haute fréquence, elle est tout en bas, elle est tout près des côtes, donc dans la partie la plus profonde, hein, sur la zone de faille. Alors que nous avions vu que tout le glissement le plus important, donc manifesté par les GPS, les tsunamis et l'analyse plus standard large bande, le glissement était près de la fosse. Alors, encore une fois, on peut le voir dans ce glissement de haute fréquence, on le voit dans ce film, hein, bon, c'est simplement la même chose qu'avant, et après on va voir aussi les répliques, etc. dans ce film, mais bon, ça c'est la zone de réplique dont je passe. Et pour conclure, puisqu'il faut que je conclue et que j'aimerais bien arriver à encore une ou deux cartes, ici donc finalement on a donc un séisme qui a eu lieu en fonction du temps et de l'espace, avec plusieurs épisodes. Donc en rose ici, la zone où il y a eu le plus grand glissement, le plus fort dégagement d'énergie, et la zone où s'est dégagée l'énergie de haute fréquence. Alors c'est important d'en faire la distinction. Celui-ci, c'est ce qui est ennuyeux pour la génération du tsunami. Mais la génération de haute fréquence est importante, bien sûr, pour le champ de vibration ressenti sur la côte. Et donc, en schématiquement, on en conclut un comportement différent des différentes parties de la faille, avec donc une zone de glissement très important, très étendue, près de la fosse, donc dans la partie superficielle de la faille, et dans la partie plus profonde, près des côtes, quelques sources d'énergie haute fréquence. Et donc 90% du moment sismique a été dégagé dans la zone près de la fosse, glissement relativement lent, je n'ai pas parlé en détail, et par contre plusieurs aspérités ont cassé donc à haute fréquence dans la partie plus profonde. Et ceci donc peut-être relié ou expliqué, bien que on n'ait pas le détail, la compréhension vraiment détaillée de ce qui se passe, peut être expliqué par hétérogénéité de la zone de contact, de la zone de subduction et de la nature du couplage interplaque dans ces différentes parties en fonction de la profondeur. Donc il y a la géométrie de l'interface, sa structure thermique qui varie avec la profondeur, et bien sûr la possibilité d'hétérogénéité de composition, car l'interface donc va couper différentes couches géologiques, en particulier sur la plaque qui surplombe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut voir un phénomène similaire pour au moins trois des plus forts séismes observés dans les dernières 10 années. Nous avons parlé du séisme de Sumatra, nous venons de parler du séisme de Tohoku, et il y a un troisième, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est le séisme de Maule au Chili, qui a une magnitude 8.8 en 2010. Et dans les trois cas, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la fosse ici en pointillé, hein, pour montrer la fosse. Dans le cas de Sumatra et du Chili, le pendage de la faille est vers l'est ou le nord-nord-est. Dans le cas du Japon, le pendage est dans l'autre sens. Mais donc la partie superficielle, c'est la partie jaune dans tous les cas, et la partie plus profonde, c'est la partie bleue. Et dans les trois cas, on a observé peu de déplacements, un glissement faible et plutôt une forte radiation à courte période. Et par contre, donc près de la fosse, le glissement, l'énergie dégagée la plus forte, mais avec donc peu de d'énergie à courte période, et zone donc à forte qui engendre fortement le tsunami. Alors voilà, alors j'arrive, je vais finir là pour dire qu'il y a eu aussi le séisme de Gorka, un séisme un peu plus faible, donc le séisme donc, qui a menacé la ville de Katmandou, qui a créé des dégâts dans la ville de Katmandou, ici dans l'Himalaya, magnitude 7.8 en 2015. Et là aussi, on a eu la même observation que l'énergie haute fréquence s'est produite près de... Là, l'hypocentre est en bas. Hein, donc là, vous avez une zone de subduction. C'est une zone de convergence. Une plaque indienne qui plonge sous l'Eurasie au Tibet. Et vous avez aussi, donc, plus grande profondeur, l'énergie dégagée à haute fréquence. Et elle s'est propagée vers l'est dans ce cas-là. Et alors, ce qui est intéressant, je ne peux pas vous montrer le film, mais on voit aussi donc la propagation de l'énergie haute fréquence, donc en fonction du temps, ici vers le sud-est, et la rupture elle-même qui couvre une plus grande zone, avec donc une rupture de plus basse fréquence, plus près de la surface. Alors, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas, mais j'ai vu récemment un film montrant la réaction des gens à Katmandou lorsqu'a eu lieu le séisme. On les voit marchant sur la place, ils sont affectés, on les voit un peu déconcertés, mais en fait, les dégâts ont été relativement faibles. Et ceci parce que, justement, les hautes fréquences ont été engendrées, générées dans la partie profonde qui était plus loin de la ville de Katmandou, heureusement. Voilà, donc je vais arrêter là. Je suis désolée, j'ai pris 5 minutes de trop aujourd'hui.